Let's be honest. Buying cannabis shouldn't be complicated, sketchy, or low quality. That's why I want to tell you about Mood.com. That's Mood.com. Mood ships federally legal cannabis straight to your door. No medical card, no hassle. And here's the kicker. The quality is better than anything you'll find at your local dispensary. Yeah, I said it. Whether you're into edibles, concentrates, flower, or just looking to explore, you'll find it all at Mood. And it's not just the variety that makes them stand out. Every product is sourced from small, American-owned family farms that care deeply about what they grow. It's cannabis you can trust, delivered discreetly, and ready to elevate your mood. And because you're a listener, you get 20% off your first order. Just head to Mood.com. That's Mood.com to get started.
Let's be honest. Buying cannabis shouldn't be complicated, sketchy, or low quality. That's why I want to tell you about Mood.com. That's Mood.com. Mood ships federally legal cannabis straight to your door. No medical card, no hassle. And here's the kicker. The quality is better than anything you'll find at your local dispensary. Yeah, I said it. Whether you're into edibles, concentrates, flower, or just looking to explore, you'll find it all at Mood. And it's not just the variety that makes them stand out. Every product is sourced from small, American-owned family farms that care deeply about what they grow. It's cannabis you can trust, delivered discreetly, and ready to elevate your mood. And because you're a listener, you get 20% off your first order. Just head to Mood.com. That's Mood.com to get started.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Ici Hélène.
Et Mélanie. Allô.
Pour...
On fête quoi, Hélène, aujourd'hui?
On fête nos 5 ans.
Ouch.
Ouch. Octobre 2020.
Ouais, on a commencé notre podcast et 5 ans plus tard, 200 épisodes, des millions d'écoutes et un livre plus tard et 4 bébés. Écoute, il s'en est passé des choses en 5 ans.
Vraiment, vraiment.
Tout est grâce à vous. Mm-hmm. Merci tellement, 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 tellement de nous permettre de vivre cette aventure-là. C'est capoté.
Merci tellement à vous. Merci de nous écouter. Merci de parler nous aux autres. C'est vraiment grâce à vous.
Ah, 100%. Mm. C'est grâce à vous. Il y a une maison d'édition qui nous a écrit pour écrire un livre. On a des événements qui s'en viennent. On capote. Mm. On est extrêmement reconnaissante.
Vraiment.
Merci infiniment. Et d'ailleurs, parlant d'événements, on a fait le Festipod.
Oui!
La semaine passée.
Oui, c'était samedi passé.
On est vendredi aujourd'hui.
Oui.
C'était samedi passé.
Oui, c'est samedi passé.
C'était quelque chose, pour vrai. Faut qu'on fasse un petit retour là-dessus, parce que c'était... Je me rappelle de rien, on dirait. Tu sais, ça s'est comme tellement passé vite, puis on était... Ben moi, particulièrement, j'étais extrêmement stressée. Toi, un petit peu...
Un petit peu. Quand ça a commencé, j'étais plus stressée que je pensais que j'allais le like.
Oui, c'est ça que tu m'as dit.
Mais je pense que ça n'a pas paru.
Non, vraiment pas. Moi, je suais de la moustache. Je leur dis-tu la journée que j'ai.
Tu te laisses.
Écoutez, je vais vous épargner les détails. Mais je suis revenue du Mexique jeudi. Et mettons que j'ai mangé un sandwich qui avait l'air étrange, que j'ai partagé avec ma fille de 3 ans. Et ça s'est pas bien passé. Ça me dit, mettons que j'avais de l'Imodium et du Pepto-Bismol dans ma sacoche backstage au Festipod.
Ça rajoutait un petit stress de plus.
Et j'avais peur de... Ouais. C'est ça.
Ça s'est bien passé.
J'étais malade et ça allait vraiment pas bien.
Mais t'étais pas à ton 100%.
Non, j'étais vraiment pas à mon 100%. Je lisais, en plus, je voulais tellement pas... C'était la première fois devant public, puis tu sais, comme je leur ai expliqué, quand on fait le podcast, tu sais, on n'a pas de filtre parce qu'on peut... éditer puis enlever si on dit des conneries ou si on fait... Je sais pas, peu importe. Je dis trop ce que je pense. Fait qu'on coupe souvent les affaires. Puis là, devant public live, évidemment, on peut pas faire ça. Fait que c'était cette partie-là qui me stressait. Puis là, je lisais mon texte puis je me disais, déroge pas du texte, déroge pas du texte parce que tu vas dire quelque chose que tu vas regretter. Et j'étais tellement focus sur mon texte que j'avais l'air d'un robot qui lisait. J'ai pas encore entendu l'enregistrement, mais j'ai l'impression que j'avais l'air d'un robot. C'est « Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis... » J'étais trop stressée. J'ai sué de la moustache comme ça se pouvait pas. Crime fait chaud sur un stage.
Oui,
en plus, on passe après Victoria Charlton, qui est comme la queen.
Oui.
De, la fille est à la télé, à la radio, à la chaîne YouTube, elle a écrit 12 livres. Genre. Nous, on passe après. Tu sais, elle est super casual sur le stage, super relax, très habituée. Elle est super articulée, tu sais, elle parle super bien. Elle est capable de comme bien... Bon, tu vois, je me brigade d'articuler ses idées, tu sais.
Okay, mais ça s'est vraiment bien passé.
Je pense que oui.
Oui, oui, les gens, je pense qu'ils ont apprécié.
Oui,
oui. On c'était vraiment le fun.
Q&A après, c'était vraiment le fun de pouvoir parler aux gens qui nous écoutent parce qu'on on vous voit pas.
Non.
On vous parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment cool, mais en personne, c'est encore plus
effrayant. Oui, vraiment.
Il y a même des filles qui sont venues nous rencontrer après. Il y a une maman, je pense que c'est Nathalie son nom, qui est venue nous rencontrer. Puis Macha. Qui venait après aussi, qui venait nous rencontrer. Hello.
Hello.
Et voilà. Fait que belle expérience. Et d'ailleurs, pour suivre ça, on va être... Où est-ce qu'on est samedi, Hélène?
On est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.
C'est pas sur Richelieu?
Sur Richelieu.
Il n'y a pas de le.
Non, il n'y a pas de le. J'ai dit un le. Je m'excuse, Saint-Jean. Je suis jamais allée. Je suis bien excitée d'y aller. Ça va être la fête. Ça va être la fête samedi. C'est la... Comment ça s'appelle? C'est
mon vieux Saint-Jean la nuit.
Oui,
c'est genre... un festival de... qui commence. C'est de 6h, de 18h à 2h du matin.
Oui.
Évidemment, nous, on ne sera pas là.
On sera pas là tout le long, mais on va être là de 7 à 9 à la librairie moderne.
Oui.
Et
dehors.
Oui, dehors, il va comme avoir un petit stand dehors. Fait qu'on va être là. Vous pouvez venir nous voir. Et ils sont supposés avoir reçu des livres déjà en exclusivité.
Que nous, on a même pas vu. On l'a... Non.
Non. Et la librairie moderne va avoir des livres avant nous.
Fait il n'a pas touché. On ne l'a pas eu dans nos mains encore. Il y a un livre à quelque part qu'on a écrit. Puis voilà. Fait que s'il y en a qui sont dans le coin, qui veulent venir nous voir ou qui veulent... se procurer des livres, écoute, ils vont être là.
Oui, ça va être là.
Ça a de l'air. On s'est fait dire que...
Fait que venez nous voir samedi. Venez nous dire
le coucou. 18 octobre de 7 à 9 à la librairie...
Moderne. Voilà.
Et aussi, dernière affaire, après ça on commence.
Oui.
Le 29 octobre, parlant de notre livre, on a notre soirée de lancement.
Oui!
Officielle. À Montréal. Je te regarde parce que j'ai oublié le nom de la librairie.
Ce sera à la... Vous devriez voir la face que Mel me fait en ce moment. Parce qu'on a dit la bonne réponse.
J'ai oublié.
Oui, nous serons à la librairie Raffin. Merci beaucoup, librairie Raffin, qui nous a invités pour l'événement. Yep. Donc, ça va être notre lancement officiel du livre en mode 5 à 7, là, à partir de 5h30 environ. On va vous mettre plus d'informations sur les réseaux sociaux bientôt. Puis,
oui, quand on aura les détails exacts. Petite bouchée, petit vino.
Non, pas petite bouchée, parce que dans une brille, ça va saler. Mais un petit vino. Il va avoir un petit vino. Okay. Il va avoir nous, il va avoir notre livre. Puis vous.
C'est ça.
C'est la librairie Raffin à Plaza Saint-Hubert. Parce qu'il y en a une à Repentigny, mais nous ne serons pas à Repentigny. Nous serons à Plaza Saint-Hubert.
Oui. Nos familles vont être là aussi si vous voulez les rencontrer, nos bébés.
Mm-hmm.
Et voilà, c'est tout pour les annoncements. Les annoncements.
Les annoncements. Wow.
C'est quoi le mot? Annonce.
Les annonces. T'as juste rajouté trop de lettres.
Oui. Je chialais tantôt. Pas important. L'épisode d'aujourd'hui, la gang, je dois faire un aveu encore. Je suis très transparente avec vous aujourd'hui. J'arrive chez Hélène, ça fait 3-4 jours que je travaille sur un épisode. J'arrive chez Hélène, je dis « OK, là, j'ai fait un épisode, c'est un enfant, non, j'aurais peut-être dû, ça me fait de la peine, blablabla. » Puis je dis « Ah, il y a un épisode d'un tiers si proche. » Puis là, je dis « C'est l'épisode Le Tunnel. » Puis là, elle me dit « Mel. » On l'a fait, cet épisode-là. Donc...
Ouais, moi, j'ai fait cet épisode-là, je pense que c'était genre décembre 2023, 22, je pense.
C'est l'épisode 54, je pense, que tu m'as montré tantôt.
Ouais.
Donc, j'ai juste travaillé un cas qu'on a déjà fait.
Puis,
bref,
à aucun moment, en lisant l'histoire, en écrivant l'histoire, Mel s'est rappelé que j'y avais raconté. C'est fou. Ta mémoire est... incroyable. Ouais. Moi, je pense que des scientifiques devraient analyser ta mémoire parce que c'est vraiment intéressant.
C'est soit extrêmement sélectif ou soit c'est...
pourri.
Hey! C'est pas fin. Bref, j'ai passé 3-4 jours de ma semaine à travailler, à perdre mon temps. Ben, non, pas ça. C'est ça.
Ouais. Donc,
aujourd'hui, on n'a pas d'épisode. Bonne journée!
Bonne journée! Bye! Non. Fait que vous voyez qu'après 5 ans,
on est toujours aussi dingue d'organiser. Je pleure un peu.
Moi aussi.
Excusez.
OK.
Donc, mais qu'est-ce qu'on a, par exemple? On a vous.
On a vous.
Puis vous avez écrit un épisode sans le savoir.
C'est ça.
Parce que là... Vas-y.
Parce qu'on reçoit ben, vraiment souvent des crimes de potins ou des gens qui nous écrivent, qui nous racontent des choses drôles ou des choses tristes. Puis qu'on souvent, c'est sur Patreon qu'on fait ça, qu'on va lire les courriels, les messages des, de vous autres, dans le fond. Mais là, on s'est dit, on va faire un épisode potin spécial.
Crimes de potins.
Crimes de potins. Donc,
on en a une chier.
Oui, on en a une chier. Fait que voilà, pour ceux qui sont pas sur Patreon, vous en avez jamais entendu. Fait que vous allez voir si vous aimez ça. Puis si vous aimez ça, ben vous irez vous abonner à notre Patreon. On en a plein d'autres comme ça.
C'est pas juste des histoires de Saint-Jérôme.
Pas juste. Il y en a.
Il y en a en tas. Mais c'est pas juste ça. Quelqu'un qui nous a demandé au Festipod, c'est quoi votre passion envers Saint-Jérôme? C'est quoi votre problème?
Comme vous, c'est parti. Ouais. Je me rappelle même pas d'où
c'est
parti.
C'est votre faute, la gang.
Oui, c'est de votre faute.
C'est de votre faute. Donc, je pense qu'on a parlé une fois de Saint-Jérôme, puis depuis ce temps-là, à chaque fois que c'est nommé à quelque part, on reçoit.
Oui, c'est ça. Vous nous écrivez tout le temps des affaires sur Saint-Jérôme. Ouais.
Juste là, dans mon, j'en ai deux. J'en vois deux dans mon texte. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis désolée. Je m'excuse si c'est de ma faute. Voilà.
Mais c'est pas grave, on va s'amuser.
Oui. Okay. Allons-y. Oui, on commence avec un update d'ailleurs.
Oui, en fait, c'est ça. Premier potin slash update, c'est que, bon, un cas qu'on a fait, épisode 52, c'est le cas de Valérie Leblanc, qui avait 18 ans quand elle était assassinée le 23 août 2011 dans un boisé derrière le campus Gabriel Roy du cégep de l'Outaouais. Et c'était irrésolu jusqu'à il y a
quelques jours.
Quelques jours.
Cette semaine.
Donc, 14 ans plus tard. Un suspect a enfin été arrêté et accusé du meurtre au premier degré de Valérie Leblanc. On sait qu'il s'agit de Stéphane Rivard. C'est un homme de Gatineau de 51 ans qui était connu des policiers, mais on ne sait pas pourquoi. Puis, on n'a vraiment pas beaucoup de détails pour l'instant. Au procès, on va en avoir plus. Puis, tout, ben, t'sais, on sait, mettons, les policiers disaient que c'était entre autres grâce à l'évolution des techniques d'enquête qui ont pu résoudre... le cas, donc on s'imagine peut-être qu'il y a eu de l'ADN full plus poussé. Donc on a hâte d'avoir plus de détails là-dessus, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis enfin, un peu de réponse pour la famille de Valérie.
Pour pouvoir enfin fermer la porte là-dessus, puis faire un deuil complet.
Un homme dangereux de moins dans les rues.
De moins dans les rues. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écrit cette semaine par rapport à ça.
Oui, je pense que genre...
beaucoup.
200 personnes qui sont pour nous dire que c'était résolu.
J'ai un crime de potin de Yannick et sa sœur Virginie qui nous ont écrit par courriel par rapport à Michel Derry. Ça va comme suit. À l'été 1983, j'avais 7 ans. Ma sœur en avait 5. C'était la fin de nos vacances familiales qu'on terminait au camping des Voltigeurs dans une tente. Une autre famille campait tout près de nous. Il y avait deux filles d'environ nos âges et un bébé. On est tout de suite devenus amis, comme les enfants savent si bien le faire, naturellement et sans effort. 100% d'accord. Tellement difficile de se faire des amis à l'âge adulte. Comme non, man. Nos parents nous avaient permis d'aller de l'autre côté de la petite lisière d'arbres. Là-bas, il y avait un mini-parc avec une balançoire et une petite cabane qui servait de toilette. C'est là qu'on allait souvent jouer tous les quatre. Et quand on se balançait, on avait cette étrange impression d'être surveillé. Quelque chose clochait. Dans le bois, juste derrière nous, il y avait un homme. Il nous regardait. Il nous suivait parfois. Je me souviens du malaise qu'il faisait naître en moi. Un sentiment d'alarme très net, même à cet âge. Il portait un pantalon long, tout en noir. Vêtu entièrement de noir en plein été. Bizarre. C'est tout ce que je peux me rappeler de lui. Son image est restée floue dans ma mémoire, mais ce malaise, lui, est resté très clair. Puis un matin, on devait repartir vers la maison. Les vacances étaient terminées. Ma sœur et moi avons supplié nos parents de rester un peu plus longtemps. Juste une journée de plus pour jouer avec nos amis. Mais non, on est parti. Quelques temps plus tard, ma mère nous a montré une photo dans le journal. Une petite fille disparue, Mélanie. Elle voulait vérifier si c'était bien notre ami du camping. On lui a dit que oui. Elle nous a demandé si on savait quelque chose. On lui a parlé de cet homme tout en noir qui nous suivait et nous regardait. Mais on n'était pas capable de le décrire davantage. Et quand on a appris que Mélanie avait été retrouvée morte, attachée à un arbre, j'ai eu un choc. C'est difficile à expliquer, mais ce jour-là, j'ai compris que tout le monde pouvait être dangereux, que quelque chose venait de changer pour toujours. L'innocence de l'enfance venait de me quitter. Et encore aujourd'hui, il m'arrive d'y penser. Je me demande, et si mes parents avaient dit oui, et si on était resté juste une journée de plus?
Oh. Ouf. Oh my God, j'ai des frissons.
Et cet homme-là, c'était Michel Berry.
Qui a été attrapé plus tard.
Ouais. Mais quand même.
Aïe, aïe.
Frisson.
Ah, elle savait comme
ouais. Le... T'as un feeling.
Ouais.
Même quand on le dit souvent, hein? Écoute ton gut feeling. Écoute-le. Ouais,
toujours.
T'as-tu un autre potin?
Oui, j'en ai plein.
Vas-y.
On a un petit. Grossesse sur grossesse fantôme. De Marie-Lou. Salut les filles, je viens d'écouter l'épisode 100. Vous parlez du déni de grossesse. Il y a aussi l'effet contraire qu'on appelle la grossesse fantôme. Ma mère a eu une grossesse fantôme un an après mon arrivée. Elle croyait vraiment être enceinte. Elle en était à sa 4e grossesse. Elle avait tous les symptômes de grossesse, prise de poids, mal de cœur, douleur au sein, développement du ventre et nausées. Mais tous les tests de grossesse étaient négatifs. Après l'échographie, elle s'est fait dire qu'elle vivait une grossesse fantôme. Et il n'y avait aucun fœtus dans son ventre. Ce fut un moment très difficile à vivre pour mes parents.
Mais ça n'a pas un autre nom aussi, une grossesse ectopique?
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça?
Non.
Quand grossesse... t'es convaincue que t'es enceinte et ton corps...
Ouais.
Mais oui, c'est ça.
Attends. Non, pas ectopique.
Ah non, c'est pas ça. Lorsque l'embryon se développe pas dans l'utérus, mais plutôt dans la trompe de Fallope. C'est vraiment pas
ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ah, grossesse nerveuse. On dit grossesse nerveuse souvent.
Grossesse nerveuse. Hein? J'ai googlé, ça dit... Dans la recherche Google, c'est écrit « grossesse nerveuse ou gestation chienne ». Tu sais, les suggestions Google quand tu commences à taper quelque chose.
Gestation chienne.
Mmh.
OK.
En tout cas, on va pas élaborer là-dessus, mais bon. Oh, c'est bien triste. J'ai un autre pote. Anonyme. Salut les filles, je viens d'écouter votre épisode sur Carla Homolka et Paul Bernardo et ça m'a rappelé un souvenir. J'habite une petite ville en banlieue de Montréal et quand j'étais au primaire, mon ami m'a raconté que Carla Homolka habitait sur sa rue. Après que ses voisins s'en soient rendus compte, ils ont mis des pancartes sur son terrain sur lesquelles on pouvait lire « Here lives Carla Homolka » ou « Here lives the murderer ». Une semaine plus tard, la maison était à vendre. Ça a été un petit chapitre dans l'histoire de ma ville. Voilà, continuez votre beau travail. Merci. C'est quand même.
Quand même, les voisins étaient là, pas ici.
Ben, j'aurais... Tu sais quoi, j'aurais peut-être fait la même chose.
Ouais, j'avoue, je sais pas comment
j'aurais réagi. Moi, je veux pas Carla Homolka comme voisine.
Non, moi non plus. Pas... Non.
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 De toute façon, elle s'appelle même puis de même. Je sais pas comment ils ont fait pour... Bref.
Moi, j'en ai un de Mirsam sur la fillette de Granby. Ben, par rapport. Ouais. Qui dit « Hey, je suis en train d'écouter l'épisode sur la fillette de Granby. Ma sœur était à l'hôpital la journée de la mort de cette petite fille. » elle y était avec sa fille qui était hospitalisée due à une naissance très prématurée. La petite va numéro 1 aujourd'hui, by the way. À ce temps, ma sœur était tellement découragée d'être à l'hôpital. Sa fille était née 3 mois prématurée. Ouf. Très, très petite, les médecins devaient lui donner des shots de caféine pour que son cœur continue de battre.
Je savais pas.
Moi non plus, je savais pas ça. Il conseillait à ma sœur de boire du café avant de tirer son lait pour l'aider à... Elle était sur le respirateur, elle était si petite. Bref, ma soeur ne passait pas un bon moment. Après avoir tiré son lait et donné des bisous à sa fille, elle la remet dans le cubicule et sort dehors très découragée. C'est à ce moment qu'elle voit une autre maman sortir dehors en larmes. Elle était au téléphone et elle hurle « Ils ont tué ma fille, ils ont tué ma fille. » Quelques jours après, on apprenait le décès de la petite fille de Granby. Elle est décédée au CHUS Fleurimont à Sherbrooke. Comme des fois, on se trouve qu'on le dure et après s'être comparé, on se compte tellement, mais tellement chanceux. Ma sœur est retournée auprès de sa fille, à elle, qui elle au moins était en vie. Ouf! Ouais, faut apprécier ce qu'on a. Parce que on sait jamais quand ça switch.
OK.
OK.
Tu veux-tu une petite shot de Saint-Jérôme?
Oui, on est dans ça, faire du bien.
Julie, elle nous a écrit par Patreon. J'avoue que j'avais beaucoup de préjugés sur Saint-Jérôme avant d'y emménager il y a 5 ans et j'en ai encore aujourd'hui. Ça commence là. Alors voici une de mes histoires loufoques sur ma super ville. Ça faisait peut-être 2 ou 3 jours qu'on venait de déménager dans notre appart. Il faisait beau, c'était une belle journée de fin de semaine. Je le sais parce que le centre d'entraide juste en face de chez nous était fermé et il est ouvert juste la semaine pour les intéressés. Vous savez, ce genre de centre où les gens déposent leurs vieux cossins au lieu de les jeter. Bref, on est assez relax sur la galerie en arrière, mon frère, mon chum et moi, quand soudain, un vacarme épouvantable. On aurait dit 2 chats qu'on tire par la queue en même temps. On se lève d'un bond et on file vers le stationnement qui donne sur la rue et là, on la voit. La madame. On écrit comme ça.
Madame.
La madame. Typique de Saint-Jérôme. Je vous laisse imaginer, on la connaît tous, celle-là. Elle sortait du centre d'entraide qui était fermé, je le rappelle. Mais quand c'est fermé, les gens laissent leurs dons dehors dans le stationnement. Et c'est là qu'on a compris. La madame venait carrément de voler un micro-ondes parmi les dons. Mais attendez. Visiblement incapable de le porter dans ses bras, elle tirait le micro-ondes par le cordon d'alimentation. Le four traînait par terre, laissant derrière lui des petites étincelles pendant qu'elle avançait comme si de rien n'était. Une vraie scène de film. On l'a regardé traverser toute la rue avec son butin électrique. Sans qu'elle semble réaliser que quelque chose clochait. J'espère sincèrement que son micro-ondes est arrivé en un morceau chez elle. Julie de Saint-Jérôme. Elle dit PS, le centre depuis a passé au feu, comme plusieurs commerces du centre-ville d'ailleurs.
Oh.
C'est triste.
Aïe.
La madame.
Hey, ça devait faire du bruit.
C'est comme si de rien n'était. Elle tire son micro-ondes comme un chat en laisse. Un chien en laisse.
Ah oh, oui.
Ça te remonte
sur le moral. Je le visualise vraiment. Oui, merci.
Plaisir.
OK. J'en ai un de Mélanie à propos d'une fusillade. Elle dit « Je viens d'écouter l'épisode 48 sur le massacre de la famille Gacal. Ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu il y a vraiment longtemps, une fusillade. Le 20 octobre 2001, ma meilleure amie fête ses 18 ans. Ma mère, comme cadeau, lui paye une limousine jusqu'à Montréal. Je viens de Saint-Hyacinthe. On part 6 personnes, dont 2 encore mineures, moi et une autre fille. La limousine nous promène à Montréal. On boit... Certains prennent autre chose. On fait le party, puis elle nous débarque au 281. Oh yeah. On rentre. Yes, nos fausses cartes marchent. On fait la tournée des bars jusqu'à 3 heures du matin. Faut pas oublier qu'on est monté en limousine, donc pas de voiture, pas d'autobus pour revenir. Mes amis décident d'aller dans un after, le Aria sur Saint-Denis. Moi et mon chum de l'époque, ça ne tente pas pantoute. Fait qu'on n'y va pas, puis nous, on n'a pas pris de pilule. Bon. Mais nous sommes pognés à Montréal, sous à brosse et fatigués. On s'installe en face du bar, dans un coin, puis on reste là un bout. Mais Chris, on n'est pas bien, puis nos amis, ils sont plus là dans le line-up. Fait qu'on se lève, puis on s'en va dormir dans l'abri de bus, juste au coin de la rue. Celui en diagonale avec le métro Berry. Il me semble que 3, 4, 5 minutes plus tard, on entend des bruits de gun dans la direction du bar. On se dit, ben non, voyons, ça peut pas être ça. Et là, il y a une gang de gars qui ont l'air, eux aussi, d'avoir des guns, des pas fins, là, qui partent en courant vers le bar en nous disant qu'il y a un gars qui tire partout sur du monde dans le bar. Ce fut le branle-bas de combat, les ambulances, la police, il y en avait partout.
Nous, le bar où ses amis étaient?
Ouais.
L'after?
Oh ouais. Nous, on capotait, on était juste assis là, puis il y a quelques minutes à peine, on aurait pu voir toute live puis ou même être touché. Selon ce que nous avons entendu, on ne sait pas qui a été touché, combien de personnes. On ne sait même pas si nos amis dans le bar sont corrects. Dans ce salon, on n'avait pas de cellulaire. Mm. On a vu l'opération policière. On a appris que c'était un gars qui essayait de rentrer dans les Rockers, genre un groupe de motards. Plus tard, on a su que son nom était Benoît Guimond. À 6h du matin, 6h du matin arrive, on est toujours dans notre abri de bus. Le métro ouvre enfin. Fait qu'on prend le métro, on prend le bus jusqu'à le bus à Longueuil pour rentrer chez nous avec un nœud dans le ventre en attendant des nouvelles de nos amis. Finalement, tout le monde est OK. Eux dans le bar, ils ont eu conscience de rien.
Ah, ouais. OK.
Les gens vous racontent des histoires de Saint-Jérôme, mais moi, c'est quand je vais à Montréal qu'il m'arrive des histoires pas d'allure. Donc, de mon point de vue, c'est Montréal qui...
C'est vrai que ça passe... On est juste pas habitués, mais tu sais, il s'en passe tellement des affaires à Montréal, ça arrête jamais.
Mm-hmm.
Que... Mais tu sais, des fusillades de même, pas
non,
tant.
Non, pas tant, heureusement.
Heureusement. Mm. Mais oui, je comprends pourquoi elle dit ça.
Mm.
Ta.
Let's be honest. Buying cannabis shouldn't be complicated, sketchy, or low quality. That's why I want to tell you about Mood.com. That's Mood.com. Mood ships federally legal cannabis straight to your door. No medical card, no hassle. And here's the kicker. The quality is better than anything you'll find at your local dispensary. Yeah, I said it. Whether you're into edibles, concentrates, flower, or just looking to explore, you'll find it all at Mood. And it's not just the variety that makes them stand out. Every product is sourced from small, American-owned family farms that care deeply about what they grow. It's cannabis you can trust, delivered discreetly, and ready to elevate your mood. And because you're a listener, you get 20% off your first order. Just head to Mood.com. That's Mood.com to get started.
Let's be honest. Buying cannabis shouldn't be complicated, sketchy, or low quality. That's why I want to tell you about Mood.com. That's Mood.com. Mood ships federally legal cannabis straight to your door. No medical card, no hassle. And here's the kicker. The quality is better than anything you'll find at your local dispensary. Yeah, I said it. Whether you're into edibles, concentrates, flower, or just looking to explore, you'll find it all at Mood. And it's not just the variety that makes them stand out. Every product is sourced from small, American-owned family farms that care deeply about what they grow. It's cannabis you can trust, delivered discreetly, and ready to elevate your mood. And because you're a listener, you get 20% off your first order. Just head to Mood.com. That's Mood.com to get started.
Hey, Sal.
Hank, what's going on? We haven't worked a case in years.
I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy.
Think something's up?
You tell me. They got thousands of options.
Mm-hmm.
Found a great car at a great price.
Uh-huh.
And it got delivered the next day.
It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank.
Yeah, you're right. Case closed.
Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.
Okay. Petite tranche de vie d'une fille qui désire rester anonyme.
D'accord.
Je voulais vous partager un crime de potin, une histoire que j'ai vécue étant jeune et qui me fait dire que je l'ai échappé belle. Nous sommes en 1998 et j'ai 16 ans. Avec une amie, on est allé dans un party chez ma cousine. En arrivant, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs gars inconnus qui s'y trouvent. C'était des cracheurs de party. Ma cousine voulait être cool et accueillante, mais on voyait qu'elle était mal à l'aise. À un moment donné, ma cousine a trouvé plusieurs des gars qui s'étaient invités au party dans sa chambre, la porte fermée. Les gars avaient commencé à écouter un film porno qu'ils avaient amené avec eux. Ma cousine avait une télévision et un magnétoscope dans sa chambre. Elle les a chassés de la chambre malgré leurs protestations et on a senti la soirée shifter. Comme ma cousine était fâchée, certains gars sont sortis dehors et quelques personnes, dont moi, les ont accompagnés. On a commencé à jouer au hacky dans la rue et un des gars s'est mis à inventer les règles style « hacky tag barbecue » où quand t'échappais le hacky, tu te faisais embrasser. Les filles voulaient pas jouer et moi non plus. Mais comme j'avais 16 ans et quelques bières dans le corps, quand un des gars m'a embrassé, j'ai pas été assez vite pour l'esquiver. Après, on est rentré à l'intérieur et le gars en question m'a entraîné dans une chambre. On s'est mis à s'embrasser et il me peignait les seins, les fesses, sans trop de cérémonie et je n'étais pas bien. J'ai trouvé le courage de me lever et j'ai réussi à sortir de la chambre malgré qu'il insistait beaucoup pour que j'y reste. Quand mon amie m'a vu sortir de la chambre, elle a tout de suite compris. Nous avons ramassé nos choses et nous sommes partis. J'ai pleuré tout le long que je rentrais chez moi.
Oh, chouette.
Les années ont passé et j'ai oublié. Des années plus tard, à Québec, le scandale du Wolfpack et de la prostitution juvénile a éclaté. Dans le journal, j'ai reconnu celui qui m'avait invité dans la chambre. Il s'agissait de Clément Carrera, un des membres de cette organisation qui était jugé et envoyé en prison depuis. Parfois, j'y repense et je félicite la jeune fille de 16 ans qui a été capable de se lever et de sortir de cette chambre. J'ai eu beaucoup de chance qu'il n'ait pas barré la porte ou qu'il ne m'ait pas retenue. Quel déchet pareil.
Oh my God. Oh.
J'ai des frissons.
Mm-hmm. Good job.
Good job. C'est cute. J'y repense et je félicite la jeune de 16 ans.
Non, parce que c'est facile de figer aussi, là, puis de pas...
À 16 ans, oui. Oui, un peu pompette, puis tout, mm-hmm. là, t'es pas... Wow. Leçon. Apprise pour les jeunes filles. Mm-hmm. Même les jeunes femmes, n'importe qui.
Oui, oui. T'as toujours le droit de dire non. Mm. Peu importe, t'es rendu où. OK, moi, j'en ai un triste encore sur la fillette de Granby. Mm. De Evelyne. Salut les bines, je suis nouvellement accro à votre podcast et je voulais vous écrire concernant un épisode votre épisode qui m'a le plus touchée, celui de la fillette de Granby. Ma mère est embaumeuse et c'est à son salon funéraire que nous avons reçu ce pauvre petit ange. Je souhaitais simplement faire une mention spéciale à ma mère et le personnel pour leur travail exemplaire, car cela aura été une tâche des plus difficiles pour eux. Difficile, pas juste émotionnellement, et je vous explique pourquoi. 1. La fillette a été embaumée car il y a eu une exposition du corps étalé sur 2 jours, une journée pour la famille proche et le lendemain pour des funérailles publiques ayant la visite de plus de 200 fouineux, ainsi que la télévision sur place, le chaos. 2. Lors de l'exposition pour la famille seulement, un membre de la famille a pris une photo discrètement de la dépouille et l'a mis public.
Hein?
À noter que c'est illégal de mettre les photos de cadavres sur les réseaux sociaux. Une bonne affaire.
Aussi, le plus grand manque de respect.
Oui, vraiment. Et le salon en question a une pas pire tape sur les doigts. En plus, c'est comme le salon qui se fait chicaner en ce temps-là. Fait qu'ils ont dû faire une rencontre avec la famille pour régler ça.
Ben voyons là.
3. La famille était vraiment en piteux... La fillette était vraiment en piteux état, comme on le sait tous déjà. Mais je voulais rajouter à votre bel hommage qu'elle avait aussi 3 ecchymoses au visage, ce qui a rendu le travail de maquillage pour l'exposition une tâche ardue. Mention spéciale à ma mère encore pour avoir réussi à bien masquer tout ça. Et aussi, avec le tape qui était enroulé partout autour d'elle, ses cheveux étaient en piteux état, mais elle a réussi à la coiffer de 2 jolies tresses, du mieux qu'elle a pu.
Pauvre petit cœur.
Bref, cette histoire m'a marquée à tout jamais. Merci d'en avoir parlé, car effectivement, peu semble connaître cette terrible tragédie. J'adore votre podcast et je vous adore. Bonne semaine.
Oh. On se rappelle que la fillette, elle avait 7 ans.
Mm-hmm. Mm. Horrible comme histoire.
Tu vois, celle-là, je m'en rappelle.
Ouais.
C'est moi qui l'ai fait aussi. Ouf. Okay. Un autre potin sur Saint-Jérôme de Magali. Coucou, j'ai 2 crimes de potin à vous raconter. Le premier est sur Saint-Jérôme. Je suis à la gare de Saint-Jérôme et il y a un homme qui s'approche de moi et mon ami, quand même assez bin proche. On décide de s'éloigner. Il n'arrête pas de nous suivre. On prend le bus 10 minutes après. Rendu à l'intérieur, on se met dans le fond et il vient se mettre sur le banc juste en avant de nous. Mon ami descend quelques arrêts après. Lorsque je me retrouve seule dans le bus 103, le gars se retourne vers moi et me dit de le prendre en photo. Je dis non, j'ai pas envie. À de nombreuses reprises, il continue de me le demander. À mon arrêt, au Carrefour du Nord, je me dépêche de sortir du bus et d'aller à l'intérieur. Plus tard dans la journée, je reprends le bus pour retourner chez moi. Le chauffeur était le même que celui de mon premier trajet. Le chauffeur m'interpelle et me dit que j'ai bien fait de quitter vite tantôt. Je demande pourquoi et il me répond « Le gars est sorti de prison il y a 4 mois après y avoir été pour agression sexuelle. »
Oh.
Mm. Le chauffeur, tu vois ça? Tu te fais quoi?
Ouais. Ben, sûrement que le chauffeur, il devait guetter, là. Comme ouais. S'il avait vu que le gars l'aurait suivi ou quoi, il aurait peut-être comme...
Il aurait peut-être signalé, ouais. Souvent. Mon deuxième crime de potin. Il en est arrivé des choses.
Saint-Jérôme.
Non, ça, c'est plus à Saint-Jérôme.
Ah! Oh.
J'ai habité une grande partie de mon secondaire à Sainte-Anne-des-Plaines. Un soir, je suis devant l'école du Harfang Pavillon Saint-François, la partie du secondaire du Harfang où il y a juste secondaire 1 et 2, pour ceux qui connaissent. Je suis avec des amis et il y a un homme qui vient nous parler. Il nous demande si on a de l'argent pour lui payer un taxi jusqu'à Saint-Lin. Je sais pas si vous. Mais vu qu'on a 13-14 ans, on n'avait pas d'argent. Il nous raconte qu'il vient de sortir du pénitencier le jour même. Il se met à nous raconter ce qu'il a vécu dans le pénitencier. Il nous avoue même qu'il a commis un crime qui lui a valu 3 ans et plus de prison et qu'il a vu plusieurs gens mourir en prison. Quelques jours plus tard, on voit aux nouvelles sa face. Mm. On l'a tout de suite reconnu. Et en réalité, il n'était pas sorti du pénitencier à Chambault, mais s'était évadé. L'homme était François Paquette. Je ne connais pas François Paquette, mais tu fais un méchant saut, tu vois le gars à télé.
Oui, c'est lui qui nous demandait 15 piastres.
C'est lui qui voulait aller à Saint-Lin.
Pourquoi vous l'avez? C'est Laurentides, je pense, là, Saint-Lin.
Ben, c'est loin de. Ah, ben, Saint-Anne-des-Plaines, oui.
Oui, Saint-Anne-des-Plaines.
C'est pas si loin.
Non, c'est ça.
Il y en est passé des affaires. Ça.
Quand même. OK, ah, j'en ai un bon. OK, celui-là, il est anonyme. Je l'ai appelé un pédophile parmi nous.
Oh, God.
Salut les filles, j'ai un crime de potin à faire de manière anonyme. Alors, ça va comme suit. J'ai été en couple avec un pédophile.
Ouf.
Il y a quelques années, dans ma jeune vingtaine, j'ai renoué avec un flirt du secondaire. Rapidement, il est venu s'installer chez moi, pendant que j'habitais encore avec mes parents. Puis nous avons déménagé dans l'appartement à côté de chez ma mère. Le gars, on va l'appeler Julien. Il était très gentil, affectueux et serviable. Il était très proche de ma sœur de 12 ans. À l'époque.
Oh!
J'avais tellement confiance en lui, que je le laissais passer du temps sans que je sois là avec ma petite sœur. Exemple, ma sœur venait chez moi pendant que je n'étais pas là. Au fil de la relation, j'ai découvert un autre aspect de sa personnalité. Il était vraiment lâche et sans ambition. J'allais aux études et j'avais deux jobs et je payais pour tout. Finalement, j'ai appris qu'il m'a trompée. Comment je l'ai appris? J'ai découvert qu'il avait fait un FaceTime avec une fille de 13 ans pendant qu'il était dans le bain.
Hein?
Arc.
Arc.
Alors, sans préavis, je suis partie. Crise de mon affaire. À cette époque, j'ai pas réalisé qu'il était un prédateur et je regrette de pas l'avoir dénoncé. Plusieurs années plus tard, ma sœur m'a avoué que Julien l'avait agressé. Il lui disait « Si tu étais plus vieille, je sortirais avec toi. » Et « Dis-le pas à ta mère, elle va penser que je suis un pédo. » Ma sœur me l'a jamais dit parce qu'elle avait peur que je sois fâchée contre elle.
Pauvre petit cœur.
C'est chouette. Je m'en veux de pas m'en être rendu compte plus tôt. Bref, voilà mon potin.
Mais tu peux pas t'en vouloir pour ben ça. Non.
Mais je comprends. Je oui. comprends moi aussi. Oh ouais, à sa place, je penserais la même chose qu'elle, mais
oh my God.
C'est pas de sa faute à elle. J'ai demandé, après ça, j'avais demandé si sa petite soeur était correcte aujourd'hui. Elle dit oui. Aïe, aïe.
Wow.
À quel point on connaît pas le monde autour de nous, là.
Oh non. Oh my God. J'ai un potin concernant Valérie Leblanc. Concernant le cas de Valérie Leblanc, je travaille au cégep de l'Outaouais. La rumeur interne concernant le meurtre irrésolu est que le coupable serait le fils de la directrice générale qui était en poste au moment du drame. La DG avait engagé son fils pour faire des petites jobines au cégep. Celui-ci avait des problèmes de consommation et des problèmes de santé mentale bien connus de tous. Il a rapidement été pointé du doigt lors des événements, même par sa propre mère. Il n'avait aucun alibi crédible. Il était bel et bien au cégep cette journée-là, mais il n'avait jamais été capable de dire exactement où, au moment précis des faits. Peu de temps après le meurtre, il a perdu son emploi. N'a-t-il jamais été inculpé par faute de preuves? Est-ce que la scène de crime avait été trop contaminée par les étudiants qui pensaient que la victime était un mannequin? Bien heureuse qu'il ne travaille plus au cégep, mais un peu inquiétant qu'il court toujours dans les rues.
Ah.
Fait que ça se peut que ce soit...
C'est-tu le même que,
je sais
qui
pas.
Était arrêté? On ne sait pas. On sait pas c'est quoi son nom. C'est...
Non. Elle, ben, elle spécifie pas.
Non, que,
je sais pas.
Je sais pas.
Mais c'est vous s'il a été pointé du doigt par plein de monde puis qu'il a... Ça me fâche de lire ça fort de moi.
Mais tu sais, peut-être que la police l'a interrogé, mais... Il pouvait
ouais,
rien faire de plus.
Clairement ouais. Faute de preuve, là.
Ouais, c'est ça.
C'est juste frustrant de savoir. Tu sais, mettons, tout le monde est comme... Mais je le savais que c'était lui.
Mm-hmm.
Je l'ai dit.
Mm.
Mais il y a juste...
Ah. OK. Moi, j'en ai un de Christiane à propos de Moïse.
Non, non.
Mais il est drôle.
OK.
Petite anecdote. Les femmes du groupe de Moïse, lorsqu'ils vivaient à Saint-Épiphane, avaient approché les femmes de l'AFEAS de Saint-Arsène et des autres municipalités afin de promouvoir leur création des poupées boutchou. Fait main. Encore aujourd'hui, ma mère possède celle qu'elle avait achetée. T'as une photo. Chaque fois que je vais chez mes parents, je dors dans la chambre où il y a cette poupée et je l'enferme dans un placard. L'image qui suit risque de vous perturber tellement, c'est d'une laideur. Encore pire quand on sait d'où ça vient et dans quel contexte elles furent créées. T'es prête?
Non. Arc! Arc! Est-ce qu'on a le droit de la publier?
Ben, parce que oui, là. C'est des poupées qui vendaient. Je veux dire, c'est public. Là.
OK, allez voir le post, mais, je vais la mettre.
Ouais, tu la mettras comme image du post, en fait, vu qu'on n'a pas d'image.
Dégueulasse.
Je te l'enverrai.
Arc! Pourquoi ta mère regarde ça? J'ai googlé AFEAS, c'est l'Association féministe d'éducation et d'action sociale.
Ah, OK. Voilà. Merci.
Plaisir. Arc! D'ailleurs. Potin verglas?
Oui, non.
Il n'arrête jamais, c'est là, il y en a tellement. Mireille. En 98, j'avais 22 ans. Je travaillais pour le déneigement. C'était tellement long d'enlever tout ça. En un mois, j'ai fait 20 fois 12 heures à 22 piastres de l'heure. Ça a été la job d'étudiant la plus payante à vie. Mais à côté de ça, je me suis rendue disponible auprès de la sécurité publique. J'ai fait la tournée des portes en de porte en porte avec un policier et quatre autres bénévoles pour sortir les gens des maisons sans électricité. Tout ça à pied. Rue par rue, on avait un brassard orange avec « Sécurité publique » écrit dessus. C'était dur de sortir les gens de leur milieu. J'étais dans un schlag. Certaines personnes âgées ne savaient même pas ce qui se passait. On a regroupé tous ces gens dans l'autobus rouge de pompiers. Un autobus rouge de pompiers? Un camion de pompiers?
Peut-être.
Pour les amener dormir au stade olympique. Moi, je restais encore chez mes parents, mais mes parents étaient coincés au chalet en Estrie pendant un mois. Imagine. J'étais toute seule à Montréal, sans électricité, à faire du bénévolat. Le truc spécial, c'est que ma maison à Montréal avait un poêle à bois, donc j'ai pu maintenir de la chaleur. Bref, un délire cette période pour moi. Du jour au lendemain, plus de famille, m'organiser toute seule, faire l'épicerie, gérer la maison pour que l'eau gèle pas. Et il n'y avait plus rien dans l'épicerie. Et je me souviens que je suis allée au Canadian Tire sur Sherbrooke, puis il n'y avait plus de batterie nulle part. Même les emballages de lampes de poche avec pile inclus avaient tout été ouverts. Savage.
Ah, wow.
Et l'autre problème que j'ai dû faire face, c'est le manque d'eau, la pression très basse. Voilà mon début de vie d'adulte.
Quand même. Ça t'apprend à gérer, là, d'un coup. Boum.
Sérieux, oui.
Ah, oui.
En plus, ça faisait du bénévolat, puis tu.
Ben oui, c'est nice. Schlag.
C'est vraiment. Good job, Mireille.
Oui. J'en ai un tout petit de Saint-Jérôme. Hello! J'ai pensé à vous l'autre jour. Je suis allée courir sur le petit train du Nord à Saint-Jérôme en écoutant le podcast, bien sûr. Et pendant que je courais, j'ai entendu du bruit dans la forêt. Et quand je me suis retournée, il y avait un gars weird avec un bâton de bois qui me regardait. Je me suis dit, ça y est, je vais être un des prochains sujets du podcast Crime de Bine. Finalement, un peu plus loin, il y a d'autres gens avec des bâtons dans les mains. Je pense qu'ils nettoyaient la forêt.
Juste parce que t'es à Saint-Jérôme, tu t'imagines le pire. Ton cerveau, il va direct là. Ça y est, c'est un meurtrier, c'est la fin.
Elle dit, j'ai jugé le gars un peu vite, mais tu sais, j'étais quand même à Saint-Jérôme.
Ça n'a pas de sens. Un bâton, il me regarde, c'est la fin.
C'est la fin.
Un homme, un bâton, un bois, à Saint-Jérôme. Voilà.
Voilà.
Cocktail parfait.
OK. Ben, j'en ai un dernier gros sur William Fife de Noémie. Salut les filles. Moi et mon chum venons d'acheter une maison à Saint-Hippolyte dans les Laurentides. Nous prenons possession de la maison dans un mois. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'elle m'a écrit ça. Ça se peut que ça fasse longtemps. D'après moi, elle est déjà emménagée. C'est la maison où William Fife a habité pendant plusieurs années avec sa femme. Cette maison ne lui appartenait pas, mais selon un membre de ma famille, qu'on va appeler Ben, qui connaissait Fife, la maison appartenait au père de sa conjointe et il habitait là. Sa chambre était au sous-sol, qui sera dans quelques semaines mon gym maison. Ben m'a raconté que lui et Fife sont allés dîner au restaurant Arousse de Saint-Jérôme trois fois ensemble, jusqu'à ce que Ben réalise que Fife y allait seulement pour observer les femmes. Et il disait de très mauvais commentaires sur les femmes. Il haïssait les femmes, ça n'avait pas de bon sens. Pour en revenir au sous-sol, Ben m'a dit que c'était son sanctuaire. Il y passait beaucoup de temps. Comme le sol est fait, la moitié est terminée et l'autre moitié est en béton et non terminée. Comme on sait, Fife a rapporté des trophées de ses meurtres. J'ai peur d'en trouver quelques-uns dans mon sous-sol. C'est pas clair à quel moment, mais Ben me dit que lorsque Fife était soupçonné des meurtres, sa conjointe, possiblement ex-conjointe rendue là, a demandé à Ben de venir changer les serrures de la maison parce qu'elle avait peur de Fife. Avec
raison.
Raison. Mais j'ai eu la confirmation aussi par Ben que Faf habitait bien cette maison-là au moment de commettre les meurtres. Certains meurtres. Et c'était quand même une longue période de temps qu'il avait tué. Je pourrais dire, heureusement, il tuait ses victimes chez elle et donc pas dans cette maison. J'ai hésité à vouloir acheter cette maison car Faf était un gros débile dégueulasse qui a fait du mal à tellement de monde innocent et qui a mis des familles dans le deuil, qui a traumatisé des intervenants de police, paramédics, car on ne parle pas souvent, assez souvent d'eux. Mais voir une femme dans un état comme ça marque les intervenants à vie, car ce sont des gens ordinaires qui doivent vivre avec ce genre de traumatisme. Par contre, je ne voulais pas passer à côté de l'opportunité d'acheter ma première maison à 23 ans, voisine de mes parents et de ma grand-mère. J'aimerais, si c'est possible, faire un shout-out à ma sœur Alex, qui m'a fait découvrir le podcast, et ma sœur Megan, qui est devenue accro aussi rapidement que nous à vos histoires. Arrêtez pas ce que vous faites, vous êtes bonne et nécessaire à ma santé mentale. Il n'y a rien de mieux qu'un bon podcast de True Crime pour commencer une belle journée d'ambulancière.
Oh! Ça finit là! J'espère que tu vas nous écrire si jamais tu trouves des trophées, entre guillemets.
Oui.
On s'entend?
Mm-hmm.
Wash. Tu fais pas, genre, exorciser, mais genre...
Au moins un petit sauge, là. Ouais, quelque chose. Procession au sauge, quelque chose, là.
Ouais.
Je sais pas si j'aurais acheté la maison, pas vrai?
Ben, si c'est la maison à côté de chez ses parents, c'est vraiment... Plus, ça, c'est nice, sens, ouais. Moi, j'achèterais pareil.
Ouais.
Mais je la ferais, être comme, nettoyée, deep clean.
Ouais, des mauvais esprits.
Puis une petite sauge, puis genre...
Un
petit Ouija, je sais pas...
Non, Ouija, surtout pas. Tu peux pas appeler les esprits.
Mais je sais, j'ai jamais fait ça. Mais en tout cas, c'est un petit quelque chose. Mais je pense pas, moi, que ça m'empêcherait. T'sais. Je veux dire, c'est l'homme. C'est pas la maison, rien à voir là-dedans.
Non. C'est ça.
Puis encore, c'est genre... Écris-nous si jamais tu trouves des trucs ou si jamais il y a des affaires étranges qui se passent.
Ouais. Voilà. C'était pas mal ça, nos potins. Ouais.
J'ai des petits shout-outs à faire.
Ah oui, donc.
J'en ai trois. Il y a PO qui nous a écrit. Il parle à Abby. Donc, je lis qu'est-ce qu'il écrit. Il écrit okay. « Abby, ce fut un plaisir de te voir grandir pour devenir la jeune femme incroyablement intelligente, curieuse, drôle, attentionnée et souriante que tu es. Je te souhaite le meilleur pour ta première année de cégep. Gros câlin, ton mon oncle PO qui est fier de toi. »
Oh!
C'est-tu cute?
Ben, cute.
Il nous a demandé. Abby!
Abby! You go.
On t'aime. ton nom qui t'aime. J'ai aussi un shout-out de Maxime. Il dit « Salut, je vous ai découvert cet été durant ma job d'été. J'ai 17 ans et j'écoute vos émissions en arrosant des fleurs. Je vous aime beaucoup et j'aimerais beaucoup avoir un shout-out pour moi, Maxime, et ma tante Sabrina. Oh. Merci beaucoup si vous le faites. » Bonne journée, Maxime et Sabrina.
Oui.
La job d'été est finie, là. C'est un peu en retard, mais
bon. Ouais.
Et le dernier de Lucas. Un petit shout-out à Lucas et sa copine Camille qui nous écoutent sur la route entre Saint-Hubert et Sherbrooke et qui fêtent leur premier anniversaire de couple. Ce mois-ci, je pense que c'était en septembre, par contre. Mais bon.
Mais quand même. C'est
premier anniversaire de couple.
Un couple qui écoute Crime de Mine ensemble, c'est du durable, ça.
Oui, c'est du durable. Donc, merci beaucoup à tout le monde de nous écouter. Oui. Et de...
Continuez à nous écrire, même si des fois, c'est long avant qu'on lise vos messages.
Mais on les lit toutes, on répond à toutes, puis on est là.
Oui, on est là. Puis c'est ça. On garde les potins, là. C'est ça, on fait des... C'est ça. C'est souvent sur Patreon là, qu'on fait des épisodes comme ça. Fait que, si vous avez aimé ça,
abonnez-vous à Patreon. Puis je vais essayer aussi que ça arrive plus jamais que je travaille un épisode qu'on a déjà fait.
Oui. C'est pour toi, tu sais.
C'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait, en plus. C'est genre la troisième fois.
Mm-hmm. Mais non, mais il y a une autre fois que c'était pas que...
Ah oui, c'est ça avait
c'est que t'avais perdu ton fichier. Ouais. Non, il y a deux fois où t'as fait un épisode que j'avais déjà fait. Quand même.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bye!
Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binkou! Bye! Thank you.
Let's be honest. Buying cannabis shouldn't be complicated, sketchy, or low quality. That's why I want to tell you about Mood.com. That's MOOD.com. Mood ships federally legal cannabis straight to your door. No medical card, no hassle. And here's the kicker. The quality is better than anything you'll find at your local dispensary. Yeah, I said it. Whether you're into edibles, concentrates, flower, or just looking to explore, you'll find it all at Mood. And it's not just the variety that makes them stand out. Every product is sourced from small, American-owned family farms that care deeply about what they grow. It's cannabis you can trust, delivered discreetly, and ready to elevate your mood. And because you're a listener, you get 20% off your first order. Just head to Mood.com. That's MOOD.com to get started.
Let's be honest. Buying cannabis shouldn't be complicated, sketchy, or low quality. That's why I want to tell you about Mood.com. That's MOOD.com. Mood ships federally legal cannabis straight to your door. No medical card, no hassle. And here's the kicker. The quality is better than anything you'll find at your local dispensary. Yeah, I said it. Whether you're into edibles, concentrates, flower, or just looking to explore, you'll find it all at Mood. And it's not just the variety that makes them stand out. Every product is sourced from small, American-owned family farms that care deeply about what they grow. It's cannabis you can trust, delivered discreetly, and ready to elevate your mood. And because you're a listener, you get 20% off your first order. Just head to Mood.com. That's MOOD.com to get started.